Welcome everybody, bienvenue pour ce 10e épisode des Clés de la Maison Blanche. Bonjour Lionel.
Salut Thomas.
10e épisode déjà.
Eh ben oui, ça passe vite.
Bon, ça y est, les chevaux sont lancés. Ce sera officiellement un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Le même qu'en 2020, les deux favoris ont déjà récolté le nombre de délégués requis pour remporter les primaires de leurs partis respectifs. Donc pas de surprise dans cette première partie de la campagne. En attendant de nouveaux rebondissements, pour ce nouveau numéro des Clés de la Maison Blanche, on va s'intéresser aux deuxième personnage des États-Unis, celle qui est à un battement de cœur du bureau ovale, selon l'expression souvent employée, c'est la vice-présidente Kamala Harris. Kamala Harris, c'était l'espoir du camp démocrate, mais la phrase maintenant qu'on entend le plus souvent, c'est « elle n'imprime pas, elle n'arrive pas à s'approprier le poste ». C'est vrai tout ça ou pas?
Alors c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, on peut se demander si c'est un cliché, mais il y a quand même du vrai. Alors, je me souviens quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais correspondant là-bas, et juste après l'élection de Joe Biden, on me demandait pratiquement autant de parler de Kamala Harris que de Joe Biden, parce que elle intriguait, c'était une femme de couleur, vice-présidente, donc il y avait tout ce storytelling en fait sur si c'était la prochaine femme et la première évidemment femme présidente des États-Unis. Donc il y avait quand même une vraie attente de la part de Kamala Harris et aux États-Unis et à l'étranger. Et puis l'intérêt s'est dissipé assez vite en fait, notamment aux États-Unis. Alors est-ce qu'il y avait aussi une part de misogynie? C'est possible, on va y revenir. Mais alors c'est vrai qu'elle a une cote de popularité très faible dès le début. Et ça va pas mieux en ce moment. Elle est inférieure à celle de ses quatre prédécesseurs. Ah oui. Dans un sondage récent, seuls 36% des Américains disent approuver son action. C'est très peu. Et plus grave, 37% des Afro-Américains et 48% des Hispaniques estiment qu'elle n'est pas qualifiée pour être présidente. Donc on voit que elle a quand même des scores très faibles. Et c'est un problème hein, quand on est le deuxième personnage de l'État comme ça. Joe Biden lui avait demandé de s'occuper de pas mal de dossiers, notamment de l'immigration. C'est quand même un cadeau empoisonné parce que c'est le dossier quasi insoluble par excellence. Donald Trump, il a beau dire qu'il avait construit son mur, il n'a pas réglé le problème non plus. Et puis en plus, elle n'a pas été très habile. Elle avait été beaucoup critiquée lors de son premier voyage en Amérique centrale où elle avait dit à l'intention des migrants, ne venez pas. C'était très mal passé, notamment dans le Parti démocrate, la gauche du Parti démocrate. Démocrate qui a dit mais vous avez pas de cœur pour dire ça. Au passage, il y a peut-être aussi une injustice aussi parce que Joe Biden a dit peu ou prou la même chose quelques mois plus tard et on lui est pas tombé dessus.
Ouais. Mais après c'est vrai qu'on dirait que les vice-présidents finalement ils sont un peu sur une ligne de crête parce qu'ils doivent à la fois faire le job et en même temps pas trop prendre toute la lumière. Quoi.
Oui, c'est une position quasi impossible. Hein. Vice-président, c'est pas là pour faire de l'ombre aux locataires du bureau ovale, même si au fil des années, alors c'est vrai qu'au début, dans l'histoire américaine, c'était vraiment le vice-président était là pour attendre qu'éventuellement le président meure. Le rôle a un peu évolué parce que certains ont pris de l'épaisseur, Dick Cheney, notamment avec George W. Bush. À partir de là, la vice-présidence a pris un peu plus de poids. Kamala Harris en prend un peu plus quand même au fil des mois et à l'approche de la campagne. La semaine dernière, elle s'est rendue dans une clinique d'avortement du planning familial dans le Minnesota. C'est une grande première hein, pour un vice-président, une vice-présidente. Et là, elle s'exprimait en disant que les extrémistes, les conservateurs ont fait passer des lois scandaleuses et je cite toujours, dans beaucoup de cas, simplement immorales. Et c'est vrai que depuis la décision de la Cour suprême en 2022 sur l'abolition de Roe v. Wade, le fait que chaque État maintenant décide de sa politique sur l'avortement, eh bien Kamala Harris a pris un peu plus d'importance et de poids parce que c'est plus facile pour elle, plus légitime que Joe Biden d'en parler. Et c'est un thème très important pour les démocrates parce qu'ils ont conscience que le sujet est capital, l'a déjà été lors des midterms et sera capital pour les électrices. Harris, et ils vont faire un des thèmes, si ce n'est le thème central pour les élections.
Et puis ça permet aussi à la campagne démocrate de vivre quand Joe Biden aura un peu de mal à faire des allers-retours tous les jours. Kamala Harris, voilà, sera présente aussi sur le terrain.
Effectivement, elle a 59 ans, ouais. Et effectivement, c'est un âge où elle a encore beaucoup plus de force que Joe Biden, ça c'est sûr.
Donc le rôle, effectivement, de remplacer Joe Biden, bah, elle l'a déjà fait de façon très officielle, puisque bah, pour la petite anecdote quand même, elle a déjà occupé la fonction de présidente finalement.
Oui, c'est une anecdote, mais factuellement c'est le cas. C'était en novembre 2021. Je me souviens, j'avais un appel de ma rédaction me disant, t'as vu Joe Biden qui se fait opérer, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe, j'avais pas vu. Voilà. Et donc, il avait été placé sous anesthésie, c'était une petite opération, hein, c'était une coloscopie de routine, mais il avait été placé sous anesthésie générale, donc plus en état, en conscience pour gouverner, et pendant 85 minutes exactement, eh bien, les pouvoirs avaient été transférés à Kamala Harris. Alors évidemment, elle n'a pas fait grand-chose en 85 minutes, mais c'était quand même un événement. C'est pour la première fois, une femme était à la tête des États-Unis. C'est une portée très symbolique, et même si c'était pour 1 h 25 minutes, en tout cas, ben voilà, elle pourra dire quoi qu'il se passe. On verra, peut-être qu'elle le sera beaucoup plus, mais qu'elle a été présidente.
Bon, alors, on va pas tirer un bilan de ces 125 minutes. Par contre, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ces 4 ans à la vice-présidence quand même?
Oui, alors, ben, il est pas terrible. Il est pas terrible dans les faits parce qu'elle est très critiquée. Donc, son positionnement politique a pas toujours été très clair. On sait pas trop. J'ai un ami correspondant qui a écrit un livre sur elle, et il me disait qu'on sait jamais trop ce qu'elle pense, en fait. C'est quelqu'un de brillant, mais c'est compliqué de connaître ses convictions profondes, à part sur certains thèmes comme l'avortement. Pas toujours très bonne en communication aussi, sourire gêné, elle dit pas grand chose. Alors ses conseillers justifient ça, justifient son manque d'aisance par son ancien poste de procureur. Elle était procureur de Californie, et dans ces cas-là, on pèse le moindre mot, donc elle est habituée à faire, on va dire, de la langue de bois. C'est vrai que c'est toujours, oui, dit avec le sourire, mais au final, quand on réécoute, c'est le cas avec d'autres personnes médiatiques, quand on réécoute, on se dit, ah, en fait, il y a rien. Donc voilà, on lui reproche de ne pas prendre assez de risques. Et puis, elle a eu du mal à définir son rôle, pas de message identifié très clair. Donc tout ça lui a été reproché. Alors, rappelons que Kamala Harris, elle a moins de 60 ans, et avant d'être choisie par Joe Biden aussi sur son ticket présidentiel, et c'est un des problèmes qu'elle a aussi, elle connaissait pas si bien que ça les instances de Washington. Elle était en Californie, elle a eu une expérience politique assez importante, mais locale, et elle a eu ce problème. Elle a tout de suite été, elle a été sénatrice avant, mais juste 4 ans à Washington avant d'être vice-présidente, et ben ça vous donne pas forcément des appuis, des alliés au Congrès, au Capitole. Donc voilà, bon, elle était pas forcément dans le sérail.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ses relations finalement avec Joe Biden? Parce que de l'extérieur, on voit finalement que la communication un peu sur les réseaux sociaux, ils en avaient fait beaucoup en 2020. Là, on sent que c'est reparti. Il y a aussi toujours l'idée de dire c'est la campagne Biden-Harris. À chaque fois, on dit son nom, ce qui n'était pas du tout le cas si on compare à la campagne de Trump. Bon, est-ce que ils entretiennent de bonnes relations? Est-ce qu'ils se parlent vraiment? Est-ce que c'est aussi beau que dans les vidéos de communication?
Oui, alors je vais répondre, mais ça me fait penser quand tu parles des vidéos en 2020, cette fameuse annonce où elle était en train de faire un jogging, et puis là, je sais plus avec qui elle est, son garde du corps, je crois, qui dit un appel de Joe Biden qui dit est-ce que vous êtes prête? Alors ça sonnait faux en fait. Ouais. Évidemment que c'était fait pour les réseaux sociaux. Alors, déjà en communication, c'était très mauvais. Bien sûr que je suis prête. Évidemment, elle n'allait pas dire autre chose. Enfin, bon. Alors, après, ça marche comme ça aussi. Hein, c'est la communication politique, mais c'était un petit peu maladroit. Alors, évidemment, officiellement, tout va bien. Hein, on n'a jamais entendu parler de grave accrochage entre les deux. Mais il y en a quand même eu un lors de la primaire démocrate. Kamala Harris, souvenez-vous, faisait partie des candidats à l'investiture. Hein, elle était donc opposée à Joe Biden. Et en fait, ça a été elle qui, lors d'un débat, a porté le coup le plus violent à Joe Biden. Et elle lui avait rappelé qu'il avait été opposé à ce que l'on appelait le busing. Et le busing, c'était une initiative dans les années 70, fin des années 70, de mixité sociale, mixité scolaire. C'est-à-dire que dans des bus, il y avait des bus, on emmenait des enfants blancs dans des écoles de quartier où la population était à majorité noire, et inversement, des enfants noirs dans des quartiers d'Américains blancs. Et Joe Biden n'a pas été très clair sur cette question. Il a même fait quelques votes avec des élus ségrégationnistes. Donc Kamala Harris, elle lui a remis dans les dents. Et dans ce débat, elle lui a dit ça, par exemple. Donc elle lui a rappelé, est-ce que vous reconnaissez, vous êtes opposé à cette mesure de busing. Joe Biden dit que c'est pas ça, c'est pas qu'il s'est opposé, c'est qu'il s'est opposé à la politique locale, enfin il justifie. Et elle, elle lui a répondu, vous savez, il y avait à l'époque une petite fille en Californie qui faisait partie d'une de ses classes pour intégrer des écoles publiques. Elle était transportée en bus à l'école tous les jours, et cette petite fille, c'était moi. Ça, le coup, Biden l'avait pas vu venir, ses communications non plus, c'était assez violent. En plus, elle, quand elle le dit, elle a un visage assez dur. C'était préparé, évidemment. Alors, ça l'a pas empêché, ça n'a pas empêché Joe Biden donc, de la mettre sur son ticket, de la choisir en tant que colistière. Mais lui a gardé ça dans un coin de sa tête, sans doute, et surtout, plus que lui, apparemment, son entourage n'a jamais pardonné à Kamala Harris ça. Donc, il y a toujours eu une petite méfiance de l'entourage de Joe Biden envers Kamala Harris. On doit faire un contrepoint, en revanche, et c'est pour ça que Joe Biden, finalement, l'aimait bien, l'aime bien, sans doute, je sais pas, dans leur intimité, c'est qu'elle a, elle a bien connu, elle était très proche du fils aîné de Joe Biden, Beau Biden, qui lui aussi était procureur dans le Delaware, qui est mort d'un cancer du cerveau. Et ça, c'était un lien important pour Joe Biden.
Bon, d'une manière générale, quand même, dans la presse, dans les late shows, elle a quand même fait l'objet de beaucoup de critiques. Aussi, énormément, elle les catalyse côté républicain, parce que certes, Donald Trump s'attaque à Biden, mais Kamala Harris, c'est une très bonne cliente pour taper dessus dans les meetings. Est-ce que ces critiques-là, elles sont quand même fondées, ou elles sont parfois injustes, notamment aussi en raison du fait que ce soit une femme, etc.?
Oui, alors on peut pas exonérer le fait qu'il y ait de la misogynie, du racisme là-dedans. Évidemment, il y a une part de chez certains électeurs, notamment des électeurs conservateurs, il y a de ça. Elle est traitée sans doute beaucoup plus durement qu'une autre personne à sa place, notamment si ça avait été un homme. C'est vrai que apparemment, elle n'a pas trop souffert de racisme dans sa jeunesse, mais elle reconnaît que depuis que c'est une personne publique, ça, beaucoup plus. Sa mère était indienne, hein, pour rappel, son père jamaïcain. Elle est jugée plus durement que ses prédécesseurs, ça c'est sûr. Il y a du machisme latent, ça c'est en politique. Les républicains, en plus, tu le disais tout à l'heure, en font facilement une cible en disant « Attention, si vous élisez Joe Biden, eh bien, comme selon l'expression, la fameuse expression, la vice-présidente est un battement de cœur du bureau ovale, ben en fait, vous donnez votre vote pour Kamala Harris, et là, ce sera absolument la catastrophe, ce serait le diable. » cette perspective, il y a même, c'est Nikki Haley qui disait, cette perspective, c'est-à-dire de voir Kamala Harris à la Maison-Blanche, devrait vous donner des frissons dans le dos. Donc voilà, c'est vraiment, elle est utilisée, comme tu le disais, par les républicains comme un repoussoir.
Bon, bah alors on va quand même espérer qu'elle sorte du bois dans cette campagne en 2024, pour qu'on aussi que les journalistes apprennent à mieux connaître ses positions, pour que le public connaisse aussi un peu mieux sa vice-présidente. On va la voir un peu plus, tu m'as dit ça, elle va être un peu présente sur le terrain.
Oui, déjà elle a commencé à être plus présente, elle fait beaucoup plus de déplacements. Alors il y avait quelque chose aussi avant les midterms, c'est comme le Sénat était à égalité 50-50, elle était obligée, en tant que vice-présidente, celle qui départage, donc elle était obligée de rester beaucoup à Washington pour départager les votes. Donc là, ils ont une courte majorité, elle est un peu plus libre de ses mouvements. Là, elle va aller par exemple au lycée de Parkland en Floride, là où il y avait eu une tuerie en 2018, elle va débattre des lois anti-armes. Elle s'est beaucoup exprimée aussi, en tout cas plus que Joe Biden, sur la guerre à Gaza. Elle est mariée, rappelons-le, un avocat juif, mais elle a pris des positions critiques à l'égard d'Israël, et notamment de Netanyahou. Ça aussi, c'est un aspect politique, parce que il faut qu'elle amadoue l'électorat jeune et l'électorat... On a parlé les Américains arabes qui sont très mécontents de la position de Joe Biden sur ce dossier. Et l'une de ses missions, c'est de remobiliser, notamment dans les attaques, les minorités, les jeunes. C'est très important, c'est un pilier pour, c'est des piliers pour le Parti démocrate. Puis la Maison Blanche, on voit de plus en plus souvent d'ailleurs en mission solo à l'étranger, notamment depuis les attentats du Hamas. Elle s'est entretenue plusieurs fois avec le roi de Jordanie, par exemple, et des présidents, des chefs d'État locaux.
On a vu à la conférence de Munich aussi.
À la conférence de Munich, tout à fait. Et voilà, donc maintenant, dans les semaines, les mois qui arrivent, c'est de montrer qu'elle n'est pas « work in progress », comme avait dit Joe Biden une fois dans une interview, ce qui était pas aujourd'hui, en gros, qu'elle a des progrès à faire encore, et qu'elle a les épaules pour être éventuellement présidente, même si, il paraît que le tout Washington bruit de rumeurs sur son éventuel limogeage du ticket présidentiel. Ça me paraîtrait un peu compliqué. Non, ça ne prend pas la forme. C'est quand même très tard. Ouais. Et puis, à cette rumeur s'ajoute la rumeur de Michelle Obama qu'on ressort à peu près tous les 15 jours, mais qui n'arrivera jamais. Alors... on repassera cet extrait si jamais il arrive.
Mais, on le garde, il est là.
On le garde. Donc voilà, ça, on va voir si Kamala Harris change un petit peu de rôle. Pour terminer, tu voulais revenir sur quelqu'un qui connaît bien le poste, un autre vice-président.
Bah oui, il a été vice-président pendant 4 ans, entre 2016 et 2020. Il avait cette chevelure blanche, une carrure un peu de garde du corps. C'est Mike Pence qui a été donc le bras droit de Donald Trump pendant 4 ans. Alors, pareil, c'est aussi difficile un peu de juger l'action de Mike Pence pendant ces 4 ans. On sait en tout cas qu'il avait été sélectionné à l'époque en 2016 pour contrebalancer un peu avec la tempête, la furie Donald Trump, la furie new-yorkaise. Avec le calme, le conservatisme et la sagesse un peu de Mike Pence.
Oui, tous les électeurs évangéliques.
Exactement, ouais. Qui étaient très proches des milieux évangéliques. Il était gouverneur à l'époque de l'Indiana. La rupture finalement entre les deux hommes, elle a quand même attendu longtemps. On pensait que ça allait peut-être mal se passer entre les deux. C'était très cordial et puis ça a complètement explosé. Souvenez-vous, le 6 janvier, lors de l'insurrection du Capitole, Trump avait laissé courir pendant ces semaines de battements quand Trump avait perdu l'élection mais qu'il n'avait pas encore quitté la Maison Blanche, il avait laissé entendre avec son équipe d'avocats que le vice-président pourrait interférer sur, vous savez, ce fameux protocole de certification de l'élection. C'est le vice-président qui théoriquement préside cette cérémonie et Trump avait dit « mais regardez, la solution est toute trouvée, Mike Pence va pouvoir intervenir, on va voir s'il est de notre côté, il va pouvoir interrompre la certification en cours. »
S'il a un peu de courage, il avait ajouté. Ouais.
Exactement, en provoquant toujours de manière assez virile Mike Pence. On a vite compris qu'il n'allait pas tourner on va dire qu'il n'allait pas donner raison à Donald Trump sur ça. Au moment du discours, souvenez-vous quand ils ont tous, quand ils sont descendus pour aller vers le Capitole, il y avait des chants, ces fameux chants qui ont marqué Hang Mike Pence, pendez Mike Pence, qui était une menace directe sur Mike Pence, qui était d'ailleurs à l'intérieur du bâtiment qui a été envahi. Donc il a été exfiltré, il y avait une menace violente, il a dû être évidemment exfiltré par le service d'ordre. Et surtout derrière, aucune réaction de Donald Trump, aucune condamnation de Trump, aucun soutien du président envers son vice-président. Il l'a même enfoncé, insulté. Et donc, évidemment, le retour de bâton assez logique. Hein. Mike Pence a refusé ces derniers jours, on l'a appris, de soutenir Donald Trump pour l'élection en 2024. Alors, c'est toujours historique avec Donald Trump, ce qui se passe et son entourage. C'est la première fois qu'un vice-président ne soutient pas son parti à l'élection suivante. Et Mike Pence, il est allé encore plus loin ces derniers jours. Lors d'une interview qu'il a donnée à l'émission Face the Nation, il est revenu sur la référence que Trump utilise pour parler des assaillants du Capitole. Il parle d'eux comme des otages, ceux qui sont actuellement détenus et toujours en attente de procès. Pour lui, ce sont des otages. Il dit tout le temps qu'il les aime, qu'il va les gracier s'il est de nouveau à la Maison Blanche. Écoutez ce que Mike Pence a dit. American hostages being held in Gaza. Il y a vraiment des Américains qui sont en otage en ce moment et ils sont à Gaza. Et que le président ou qu'un ancien président fasse référence aux otages en parlant d'individus qui sont jugés aux États-Unis, c'est inacceptable. Il dit voilà, qu'il était là le 6 janvier, qu'il a vu le Capitole se faire envahir, un raid. Il parle d'un raid. Il y a peut-être des gens qui se sont laissés entraîner, dit-il, dans un mouvement. Il dit que ces gens auront le droit à un vrai procès démocratique avec la justice américaine. Qu'ils pourront se justifier s'ils n'ont pas été violents, mais il dit, il le rappelle à la fin, il ne faut pas oublier toutes les violences commises ce jour-là, surtout sur les forces de l'ordre, des individus ont causé la mort. Hein. C'était tragique, il le dit, et il ne diminuera jamais ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et c'est intéressant, je voulais revenir avec toi là-dessus, parce que finalement, on a l'impression que le Parti républicain a un petit peu passé l'éponge sur cette journée du 6 janvier, alors que Pence, dans cette interview, donne l'impression qu'il a été, lui, traumatisé, immunisé au trumpisme. Et ça, est-ce que ça peut être suivi par les électeurs ?
Alors, oui, alors le problème aussi de Pence, c'est qu'il ne pèse pas dans les sondages, dans la primaire. On a vu, donc, il a cette position
oui,
un peu plus facile.
Il s'est présenté.
Oui, il s'est présenté. Mais... bon, ça n'a pas pris. En revanche, on en parle depuis le début, l'élection, elle peut jouer à la marge. Donc, effectivement, les électeurs évangéliques, conservateurs, qui aiment bien Mike Pence, ils peuvent le suivre. Alors, ça ne fera pas grand-chose, mais pas grand-chose plus pas grand-chose. Et bien, au final, c'est là où on peut gagner ou perdre une élection. C'est vrai que lui, il est assez clair, contrairement aux autres, depuis le début sur ses positions par rapport à Trump. Pendant le mandat de Trump, quand il était vice-président, il a été très loyal, il avalait beaucoup de couleuvres, on ne l'entendait pas, manquait un peu de personnalité d'ailleurs. Mais là, au moins, après, il a le courage, contrairement à d'autres, comme Kevin McCarthy, qui ont dit après le 6 janvier, à propos de Trump, mais ce type, c'est pas possible, on en veut plus. Et puis après, trois semaines plus tard, ils allaient à Mar-a-Lago pour se prendre en photo avec lui. Le problème du Parti républicain, c'est que moi, je suis pas certain qu'il y ait plus de la moitié du parti qui soit vraiment avec Trump, sauf que bon, ce qu'ils voient, c'est leur carrière, comment faire gagner le parti. Ils ont pris le parti, justement, de soutenir Trump parce que c'était le mieux placé, alors qu'ils avaient un ou deux créneaux pour l'écarter, après le 6 janvier, après les midterms, voilà, là c'est foutu maintenant, ils sont obligés de suivre ce créneau. Je suis pas sûr effectivement que tous soient intimement, idéologiquement convaincus par ce que dit Donald Trump, mais ils ont choisi, on va dire, l'efficacité pour l'instant, c'est lui.
Voilà pour cet épisode donc sur les vice-présidents. En attendant d'ailleurs de savoir qui sera le colistier de Donald Trump pour l'élection 2024. Spoiler alert, ce ne sera pas Mike Pence.
Non.
Voilà.
Je crois qu'on peut miser pas mal de dollars dessus.
Bon, ouais. Mais en tout cas, merci Lionel pour ces analyses dans cet épisode.
Merci à toi.
Et on se retrouve donc pour un prochain numéro des Clés de la Maison Blanche. Bye bye.
Bye bye.